Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici le commandant de bord.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Vous êtes sur porteur, me voler de tournant. Vérification de la porte à poser.
Jean-Christophe Drouet.
Et ici, nous voyageons tous les jours en business class. Et parfois, c'est de l'écho, mais ça, c'est parce qu'on est un petit peu fatigué. 11h07, de retour dans les grandes gueules du sport, dans le studio RMC. Votre émission, les GG du sport, le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Si vous avez raté les deux premières heures, de très belles factures. Nous avons parlé de basket, nous avons parlé des affaires qui secouent le football français. Nous avons parlé de l'UBB avec Christophe Furios, évidemment. N'hésitez pas à aller nous podcaster. Toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Sarah Pitkowski et donc notre GG Christophe Furios dans quelques instants. Le bras de fer sur les célébrations des sportifs. Il y aura une team limite, une team no limite. Je vous explique tout ça dans quelques instants. 11h30, les GG, c'était mieux avant, votre rendez-vous tant attendu, le moment d'histoire de Christophe Cessieux aujourd'hui, le destin dramatique d'Alessandro Zanardi, pilote automobile, victime d'un effroyable accident il y a 21 ans, devenu champion paralympique. Baissez la lumière, on a enlevé la musique, car les artistes entrent dans l'arène. Oh, je sais, vous allez me dire, il en fait trop.
Non, mais tu aimes bien le dramatiser depuis la rentrée, hein, quand même, cette
petite. Oh, je sais, oui, j'en fais trop. Aujourd'hui, il est question de célébration. La joie du sportif. Mercredi, Neymar avait pris un carton jaune sur la pelouse du Maccabi Haïfa après avoir célébré un but en tirant la langue avec ses pouces sur les tempes, une sorte de grimace que l'arbitre avait pris pour une provocation. « C'est un manque total de respect », avait alors déclaré Neymar, furieux après la rencontre. Le lendemain, jeudi, Coquet, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, a averti Vinicius, attaquant du Real, assez démonstratif, c'est vrai, dans ses célébrations, de ne pas venir danser s'il venait à marquer un but dans le derby qui aura lieu ce soir, le derby de Madrid. Il y aura des problèmes s'il célèbre comme ça au Wanda, c'est certain et c'est normal, a-t-il déclaré. Neymar, Pelé depuis, sont montés au créneau pour défendre le Brésilien. Alors, dans les célébrations, est-ce qu'il y a une limite ? Ou c'est plutôt nos limites ? Dans le coin gauche, la team limite. Sarah Pitkowski, Christophe Furios, Christophe Cessieux.
Coucou.
Dans le coin droit, vous l'avez compris, la team, nos limites, Simon Dutin. Mais il n'est pas impossible que je sorte de mon devoir de réserve et que j'entre dans ce débat, j'entre dans l'arène avec vous.
T'as pas le droit.
Dans la team, nos limites.
Tu es neutre.
Je ne suis pas neutre. Je suis journaliste. C'est pire. Le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Un bras de fer qui va durer 10 minutes. Sachez que depuis ce matin, tôt ce matin, vous pouvez voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Team limite, team no limite. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas match, les copains. Mais vous êtes trois à nous prouver le contraire avec un problème évidemment de son. Mais ne vous inquiétez pas, je peux faire durer le suspense et meubler jusqu'à midi sans aucun problème. La team No Limits est largement devant avec 68%. La team Limits.
Est-ce que tu allais voter, JC ?
Évidemment. La team Limits est largement derrière avec 32%. C'est donc d'usage. La team Limits, vous allez commencer. Vous êtes trois à essayer de convaincre les auditeurs et on fera un point dans 5 minutes à la mi-temps. Team Limite, elle ne comprend pas ce sondage. Team Limite, Sarah Pitkowski, pourquoi Limite ?
Pourquoi Limite ? Parce que la célébration des buts des joueurs de foot, au-delà d'être une célébration, c'est un espace d'expression majeur. C'est souvent aussi un moment où les joueurs font passer des messages et c'est en là qu'ils ont une énorme responsabilité de compréhension de ce qu'ils font. Alors, Une danse reste une danse, une grimace reste une grimace, mais il y a aussi d'autres sports où il y a eu des gestes et des célébrations qui avaient des prises de parti soit sociétales, soit politiques. Et c'est là que ça devient compliqué pour un public en l'espace de quelques secondes, une caméra ou un arbitre, de juger si on est sur un geste d'expression ou c'est sur un geste de provocation. Et c'est là où on est malheureusement obligé de mettre une limite.
Mais la ligne est ténue quand même.
Mais oui, elle est ténue.
Parce qu'une provocation, un chambrage, ça reste du sport.
Oui, ça reste du sport, excuse-moi.
Ça fait partie du sport, le chambrage.
Ça reste du sport quand t'as un certain Anelka qui fait un geste qui peut être interprété comme un geste peu délicat.
Voilà.
Quand tu vas chercher un Kaepernick qui se met à genoux ou quand tu vas chercher une Megan Rapinoe qui, elle, prend un parti pour
être contre. Kaepernick qui se met pas à genoux pour célébrer ça.
Non, mais
c'est pas pareil.
Oui, mais quoi qu'il arrive, c'est un geste qui est vu par tout le monde et il y a une loupe qui se met sur le sportif et on essaie de chercher à comprendre ce qu'il veut dire par ce geste-là. C'est pour ça que malheureusement, on ne peut pas laisser la porte ouverte à tout. Je crois que dans le foot, on a bien arrêté le fait que le joueur enlève son maillot avec le message super, je t'aime mon amour.
Bon, enfin, on a juste un mauvais t-shirt,
ma fille, et ainsi de suite. Ça, c'est pas gênant. Ça me gêne pas en fait.
Oui, ça me gêne beaucoup moins, tu as raison.
Alors qu'il y a d'autres gestes, excuse-moi, et il y a des joueurs qui subissent des provocations racistes, mais ils ont une réponse. Mais comment tu l'interprètes? Comment tu l'interprètes? Alors dans ces cas-là, s'il y a un mec dans les tribunes, dans les 80 000 qui font des gestes, si on est capable de le sortir dans la minute, oui, dans ces cas-là, les règles sont aussi bonnes pour celui qui est sur le terrain que pour celui qui est sur le tribune, dans les tribunes et qui provoque le joueur.
J'espère qu'on s'entend. On est quand même raisonnable dans cette émission et dans ce bras de fer. On va pas parler ni de gestes obscènes, et après je donnerai la parole à Simon pour la contre-attaque, ni de gestes obscènes, ni de gestes répréhensibles par la loi. Évidemment, dans la team No Limits, on va pas défendre ça.
Mais tu l'as dit, j'y sais. On
peut sortir avec son coup de fusil à Lens, alors que.
Oui, mais justement, ça. Revenons au cas d'espèce qui nous pousse à avoir ce débat ce matin. Encore une fois, de quoi parle-t-on? Neymar, vous avez vu, je suis désolé. Neymar, si c'était pas devenu le bouffon de la planète foot depuis 3 ans parce qu'il se roule par terre, parce qu'il est plus haut niveau qu'il est censé avoir.
Il prend jamais le jaune.
Et tout machin. Mais je suis désolé, moi je suis pas supporter parisien, c'est un scandale. Moi je suis pas un fan de Neymar. C'est un scandale. L'arbitre, t'as envie d'aller le voir, tu lui dis attends, excuse-moi, tu n'aimes pas Neymar, enfin, quelle est la raison? Expliquez-moi. Que l'arbitre vienne avec le règlement et me dise, Neymar, il a manqué de respect à qui?
Si tu ne sais pas qu'il fait ce geste régulièrement, après chaque but, tu peux interpréter ça comme je vais chambrer mes adversaires. Je vous tire la langue et je vous fais des grimaces.
Et juste pour répondre à Sarah, parce qu'elle fait bien de le relever. Cavani, lorsqu'il s'agenouille et que, après chaque but, et qu'il mime le geste de tirer à la Kalachnikov sur, on ne sait pas qui, mais vraisemblablement le public adverse, ou en tout cas, même quand c'est son public.
Non, c'est un tireur d'élite.
Dans ces cas-là, tout est sujet à interprétation et on peut toujours faire dire des choses.
Exactement. La célébration. Donc tu donnes la réponse même qu'il faut mettre un cadre.
Lorsque si Neymar ne marque pas de but pendant 3 matchs, on va dire oh quel bouffon, quel tocard, il est mauvais, machin. Les mecs quand ils marquent, ils déchargent une adrénaline. Il y a une émotion qui se dégage. Je suis désolé, c'est un spectacle.
Célébration.
On paye pour le spectacle. Les mecs qui viennent voir Ronaldo marquer, ils veulent le ouh. Les mecs qui viennent voir Mbappé marquer, ils veulent voir les bras croisés sur le torse. C'est une marque de fabrique, ça fait partie du jeu.
De Neymar, elle vient de changer depuis qu'il est parti faire les matchs au Japon, on est bien d'accord.
On a tous fait
parce qu'il s'est fait chambrer.
Même à l'école, quand tu fais du sport, t'es content, tu marques un but, tu vas narguer.
Ouais, mais c'est ok, les copains. Je sais que ça peut être un sujet
intime.
Ça peut être sujet à mauvaise interprétation. Et les gens qui ne connaissent pas ce geste de Neymar, il ne l'a pas fait 150 fois depuis des années, ne savent pas. Et ça peut être jugé comme une moquerie vis-à-vis de l'adversaire.
Et quand bien même, Christophe, mérite une sanction.
À ce moment-là, tu vas expliquer à l'arbitre avant le début du match, voilà le geste que je vais faire. Et je dépose mon geste.
Tu fais une petite feuille avec toutes les dernières célébrations des joueurs pour qu'ils laissent
Moi, je suis plus, et là aussi, tu vas me traiter de vieux con, comme d'habitude.
Mais j'ai jamais vu ça, Christophe.
Non, c'est pas ton genre.
Jamais.
Je suis plus
dans
les équipes qui, à la fin d'un match, font la haie d'honneur à leurs adversaires qu'ils viennent de battre. Moi, je suis plus dans cet esprit-là plutôt qu'un mec qui vient faire des grimaces. Voilà, mais, regardez, j'ai marqué un but, je suis le plus beau, je suis le plus fort.
L'un n'empêche pas l'autre, Christophe, c'est tout. L'un n'empêche pas l'autre. Sur le moment, tu marques un but. Je te dis, tu décharges, il y a une adrénaline qui se décharge, et puis à la fin du match,
attends,
tu te
sers la main. Tout est très calculé, tout est très, c'est l'image parfaite, on veut,
On
a souvent reproché dans cette émission que le trash talking se perd, que dans le tennis, il n'y a plus de personnalité, que les mecs ont plus de caractère, que les mecs s'engueulent plus, que les mecs ont plus, enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut, on veut du spectacle, on veut des caractères, on veut, c'est normal.
Ok, il est encore, il est aussi dans la team limite avec Sarah Pitkowski, avec Christophe Cessieux et Christophe Furios dans les célébrations des sportifs. Pourquoi team limite, Christophe ?
Ouais, encore une fois, j'entends tout ce qui se dit. Moi, je crois que le but, l'essai, parce que c'est quand même très ciblé sur les sports collectifs. Dans les sports individuels, on le voit un peu moins, même à mon sens, quoi. Me semble-t-il. Et je trouve que c'est la récompense d'un schéma, d'une belle action, d'un truc incroyable. Et je crois que l'émotion doit être partagée, évidemment. Après, je suis quand même favorable à qu'elle soit encadrée, quoi. Voilà, on peut pas tout dire, tout faire, te faire passer des messages. Moi, j'ai été victime l'année dernière, notamment avec Cameron, la fin de saison dernière.
Cameron Mawoki.
Quand il marque cet essai contre.
Devant le micro, contre, Christophe.
Ah oui. Quand il marque cet essai, qui fait ça.
Qui chute et qui.
Voilà.
Le doigt sur la bouche. Pour faire taire les critiques.
Faire taire les critiques ou moi.
Ou son coach.
Donc, c'est franchement, je le prends pas pour moi. Enfin, on fait passer
il
des messages.
Pas dit que ça avait rien à voir avec toi d'ailleurs.
Ouais, si, il a dit un peu après. mais bon, voilà, je trouve que c'est mal placé. Comment? Je pars du principe qu'on ne pense pas à la place de l'autre. Moi, je fonctionne comme ça. Si je sais pas, je me tais, quoi. Là, on fait passer des messages qui sont pas des bons, me semble-t-il, des bons messages, quoi. C'est pas on se trompe de cible, à mon sens. Moi, je crois que le sport doit rester authentique. Et en même temps, je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. Il y a deux ans, un match, ça n'a rien à voir avec une célébration, mais presque. Un match Béziers-Nevers. Béziers marque un essai au moment de, je crois que c'est le gain du match, je l'ai plus en tête. Cet essai, il est refusé. Et Raoul Souquet, qui était l'ailier fidjien, qui est aujourd'hui à Castres, prend l'arbitre et le soulève.
Ah oui,
génial. On en a parlé dans cette émission.
Le mec, il a pris un carton rouge.
Ouais.
Mais moi, j'aurais mis les médailles de la plus grande émotion à Raoul Souquet. Tellement que j'étais spontané, gentil, sympa,
oui,
content.
Aucun geste d'agressivité.
Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Et alors, c'est pas les célébrations de Neymar, c'est pas. Mais là, on valide l'émotion d'un mec qui, du pire, on est content, il le repose délicatement. Et l'arbitre, qui a été tellement surpris, il file en rouge. Moi, j'aurais été à la Ligue du rugby, j'aurais mis les médailles à Raoul Souquet. À la fête du rugby, j'aurais dit, toi, tu vas venir avec moi, je vais te mettre une médaille parce que ce que t'as fait, c'est formidable.
C'est le sport. Si je t'écoute attentivement, t'es plutôt dans le côté de nos limites.
Ouais, mais après, faire ça, c'est des conneries, ça. Moi, je trouve, c'est parce que c'est toujours plus, quoi. Ouais, toujours plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire? Je trouve que, bon, voilà.
Je reprends la main, les copains, nous sommes à la pause de cette rencontre et de ce duel du bras de fer. Je vais vous donner un point sur les scores, sur le sondage, pour voir si cette team limite réussit à inverser petit à petit la tendance. Il y avait 68-32.
Ouf.
Sachez que...
Pour les no-limites, hein.
Sachez que pour les no-limites, tu as bien raison de le préciser, vous êtes derrière pour l'instant. Sachez que vous êtes en train de faire votre travail plutôt bien. Vous partez de loin, c'est vrai. Nous sommes à 67-33.
Ah oui, bon. Oh, bah d'accord.
Tu vas voir la célébration
C'est une victoire malgré tout et je vous en félicite. Mais il vous reste 5 minutes dans ce débat sur le
pour voter.
Limite, nos limites. Moi, je voudrais vous interpeller, les copains des plutôt limites, des plutôt frileux, j'ai envie de dire, même si c'est une petite provocation, bien sûr, sur cette histoire de Coquet et de Vinicius. Vinicius, brésilien. Bruno Joguito, comme on dit, même si je le dis très mal, et qui aime bien, évidemment, je l'ai mal dit. Donc, comment on dit en brésilien ?
Non, justement, j'ai pas compris du tout ce que tu voulais dire.
J'arrive pas à le dire. Joga Bonito, merci. Je l'ai inversé. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Quand Coquet dit, attention, hein, si tu fais des célébrations un peu trop dansantes, tu auras des problèmes. Ça vous choque ou pas ? Qu'un joueur avertisse avant, qu'il arrive en disant, attention, t'es chez nous et chez nous, on fait pas ça. Christophe, t'as un avis, non?
On en parlait tout à l'heure avec la haine, quoi, fait la haine, ou en tout cas, détester l'adversaire, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Voilà, donc après, ça me fait rire, quoi.
Ok, ça c'est plus rire qu'autre chose. Ça fait partie du match.
Ouais, ça fait partie du match.
On met la pression.
On déstabilise, voilà.
Ok, Simon Dutin.
Vous êtes au courant que donc Vinicius qui a marqué, moi j'ai pas vu l'image, mais j'ai vu les articles passés, il a donc dansé.
Oui.
Il y a un hashtag qui s'est créé, Baila Vinicius.
Qui a été lancé par Neymar.
Voilà, et il a dansé, vous vous souvenez, à la Coupe du Monde, 94, Bebeto qui célébrait la naissance de son fils.
Oui, bien sûr.
Exagérait un peu le mouvement de bercer son enfant dans les bras, c'est devenu
mythique. C'est parti de là, en fait, c'est les premières célébrations.
Mais moi, j'ai ces images-là, et celles-là, je les trouve...
Et vous avez vu que ça a dérapé. Je crois qu'il y a un membre de la Ligue espagnole ou de la Fédération espagnole qui a dit, qui a comparé Vinicius à la danse de Vinicius à celle d'un singe. C'est-à-dire que donc on en est là. Et effectivement, je rejoins Christophe. Coquet, il met la pression, c'est l'Atlético, le Real, il peut pas se blairer, c'est normal, il se joue 10 fois par saison, en tout cas depuis 10 ans et machin, et ils sont à la lutte pour les mêmes titres. Cueillez le coup de pression en disant tu vas pas venir faire le malin chez nous, ça c'est, effectivement ça rentre dans le cadre du chambrage avant les matchs. En revanche, que d'une part la danse de Vinicius elle soit considérée comme obscène ou interdite ou
là on est dans le ridicule.
Oui. Mais faut arrêter les bêtises. Moi Vinicius, j'ai envie qu'il danse à chaque fois qu'il bat et j'espère qu'il va le faire à chaque fois qu'il va marquer. C'est honteux d'aller jusque là.
Eh ben justement, Neymar a répondu à Coquet en disant « Dribble, danse, sois toi-même, heureux comme tu es, prochain but, on danse mon garçon ». Et Pelé a également réagi à cette polémique « Le foot, c'est la joie, c'est une danse, c'est une vraie fête ».
Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Simon. C'est là où en fait on est en train de faire l'amalgame entre ce moment de partage parce qu'il y a ce surplus d'adrénaline quand on marque un but, qu'on veut communier avec les autres, les 10 autres équipiers sur la pelouse et les milliers de spectateurs qui sont dans un stade. Et ces gestes, de temps en temps, qui sont des provocations, qui sont si tu veux, ils le savent, les sportifs. Ils ont la caméra sur eux. Et là, ils font passer un message, soit parce qu'ils ont reçu une agression et ils veulent un droit de réponse, soit parce qu'ils ont quelque chose à exprimer. Et là, la frontière, elle est très mince. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la porte ouverte à tout. Malheureusement, on ne peut pas. Pas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Je voulais avoir son avis, l'avis de Christophe, sur ce qui s'était passé entre Mathieu Jalibert et Dumora. C'était quand l'année dernière, ou il y a deux saisons, l'UBB bat Castres. Et Mathieu sort du banc, il était remplaçant, et il vient mettre une petite tape derrière la tête de Dumora. Ça a été très mal vécu à ce moment-là. Et est-ce que ça, selon toi, ça fait partie du chambrage autorisé, ou alors on est un peu au-delà de la limite?
Pour moi, de par le contexte du match, encore une fois, là c'est un essai qu'on marque à la 90e minute,
qui fait
gagner le match. Donc le contexte, il est un peu chaud. Il y a Castres, UBB. Bon, vous connaissez un peu les historiques entre nous. Donc voilà. Ça reste pas méchant parce qu'il met pas une claque derrière la tête. Hein, il lui appuie sur le dos. Il était en train de se refaire remonter les chaussettes. Ça reste méchant, mais. Franchement, je me mets à la place de Dumps. Voilà. Je comprends que ça peut foutre les boules. Hein. Voilà, donc on est limite, quoi, encore une fois. Mais c'est pas tout. On parle pas de la même chose.
Non, c'est pas la célébration.
Ouais, on parle pas de la même chose, quoi. Moi, je suis pour, encore une fois, et je suis dans le camp des limites parce que j'ai toujours peur que c'est toujours plus. Et aujourd'hui, notre société, c'est celle-là. Et quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce que les gens sont capables de raconter. Putain, je me dis, mais on les mecs sont hors sol, quoi. Et voilà, c'est ça qui me fait peur. Après, que les mecs s'amusent sur un terrain, comme le dit Neymar, je trouve ça fantastique, parce que les gens autour du terrain ont besoin de ça aussi, quand même, quoi. Et ce que fait Mbappé, par exemple, quand il marque ses buts, mais tous les gosses de la région le font, tous les gosses de la France le font. C'est ça, le sport, pour moi. Maintenant, attention à ce que tu fais, quoi. Voilà. C'est en ce sens où je trouve qu'il peut y avoir une limite, quoi.
Et évidemment, il y a une limite à tout, et notamment, on le disait, aux gestes répréhensibles par la loi,
évidemment.
Aussi aux gestes obscène. Je me souviens, peut-être vous aussi, de cette histoire de Pascal Nouma qui était parti en Turquie et qui, après son premier but avec son club, avait mis la main dans son short pour mimer quelque chose d'assez obscène. Il avait été viré manu militari. Mais quand on dit nos limites, évidemment, on ne parle pas de ce nos limites-là.
Ah oui, d'accord. Parce que là, limite.
Tu sais, Gichet, le problème, c'est que si tu décides un jour de légiférer, c'est-à-dire que si tu laisses à l'appréciation de l'arbitre, aux États-Unis, ils font ça en NBA et en NFL notamment, ça s'appelle le taunting. C'est-à-dire que tu marques un panier ou un touchdown et l'arbitre, c'est à la discrétion de l'arbitre de juger si en fait ta célébration, elle ne manque pas de respect à l'adversaire. Et franchement, ça a tué un petit peu l'esprit du jeu.
C'est la fin de ce bras de fer. Oh oui, on a essayé d'apporter d'autres arguments, mais Simon, il n'y avait pas vraiment besoin.
Il n'y avait pas match.
Même s'ils se sont bien défendus, qu'ils ont expliqué leur situation, leur position.
Good game.
Ils ont parlé avec leur cœur.
Les auditeurs ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux.
Tu penses qu'ils sont censurés, surtout sur Twitter?
Ouais.
Ah, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Bah, bon, c'est un autre débat, c'est pas grave. Y a-t-il une limite au chambrage, aux célébrations? Team limite, team no limite? Avec des milliers de votes.
Ouais.
La team No Limit s'est imposée largement. 68%, 32% pour vous.
En plus, on a perdu
les copains.
Petit pourcent qu'on avait gagné.
Oui, vous venez de le perdre, à mon avis.
C'est endormi.
Laborieusement. Oh, bah,
oui. Les 5 dernières minutes n'ont pas plu.
C'est endormi.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Une séquence que vous adorez, un moment d'histoire raconté par Christophe Cessieux. C'était mieux avant. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, les Grandes Gueules du Sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, de retour dans les Grandes Gueules du Sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Christophe Furios, Sarah Pitkowski. Je reçois beaucoup de messages. N'en voulez pas à Christophe Furios, les autres GG, évidemment, c'est la première fois qu'il est avec nous dans le studio. En plus, Christophe n'a pas pu venir en fin de saison dernière. Pourquoi d'ailleurs? Non, je vais pas revenir là-dessus. Mais c'était.
Est-ce que c'est pas juste... Moi, je me demande si c'est pas juste une histoire d'accent quand même. Il a un accent beaucoup plus chantant que nous.
Mais oui, mais travaille dessus aussi, toi.
Ouais,
vas-y, comment tu fais l'accent chantant?
Mais moi, je sais pas, je suis à nous poser, qu'est-ce que tu veux, on est des gens du Nord, on est froid, enfin bon, tu vois, c'est...
J'ai Ulfried, par exemple, qui me dit sur le direct studio, s'il vous plaît, les GG, donnez-lui tout ce qu'il veut à monsieur Christophe Furios pour qu'il vienne plus souvent, je me régale. Mais tu veux quoi, Christophe, pour venir plus souvent?
Je sais très bien comment ça se passe.
Tu veux voyager en première, c'est ça?
Ah voilà, c'est ça le problème. Il faut la business. On va en parler, mais ça va être compliqué. Je rappelle.
Le club parisien, peut-être à terme.
Christophe.
Il y en a deux, a priori. Donc
Moi, je milite plutôt pour la sélection. Mais bon, chacun fait. On ne va pas emmener ce débat là-dessus. Christophe, manager hockey de l'UBB, mais aussi vigneron, comment on peut dire ça? Œnologue.
Vigneron,
avec un magnifique. D'ailleurs, tu en as apporté pour nous après, merci beaucoup. Ouais. Tu peux justement le vendre en 10 secondes, comme ça, 30 secondes, pour nous dire à quel point il est bon, parce que tu fais du blanc et du rouge. Ça s'appelle le château?
Ça s'appelle le château Pépus, que dans le Minervois. Donc, il y a une très belle appellation de vin français, évidemment, à côté de Carcassonne. Donc, voilà, effectivement, c'est le plus beau vin du monde.
Évidemment, le plus beau vin du monde. Ouais, une petite dégustation après pour nous les GG. Ouais. Merci encore à déguster avec modération. C'est toujours important de le signaler, mes chers auditeurs. Tous les dimanches, autour de 11h30, Christophe Cessieux nous conte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu. Dwis en tête. Dwis, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Le 15 septembre 2021, il y a 21 ans, la carrière d'Alessandro Zanardi tourne au drame.
Ce 15 septembre 2001, sur le circuit du Lozenring en Allemagne, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. 4 jours après les attentats de New York, le monde entier est encore sous le choc et la Formule Kart, l'ancêtre de l'IndyCar qui se déplace en Europe ce jour-là, rend hommage aux victimes du World Trade Center. À quelques minutes du départ, les visages sont fermés, les pilotes n'ont pas le cœur à la course. Parmi eux, Alessandro Zanardi. À 35 ans, le double vainqueur du championnat 97 et 98 fait son retour cette année en kart, où il est une véritable vedette. Un pilote spectaculaire qui, malgré plusieurs tentatives en Formule 1, n'a jamais réussi à s'imposer. Quelques années plus tôt, à Spa, il a même frôlé la mort de très près, se crachant au volant de sa Lotus lors des essais du Grand Prix de Belgique.
C'est sans doute le plus gros crash de la saison. Je n'ose imaginer à quelle vitesse Zanardi a heurté les barrières. On a vu un flash au moment du choc et la voiture est partie en tête à queue, a tourné sur elle-même une dizaine de fois. Zanardi est resté inconscient pendant quelques instants avant d'être transporté à l'hôpital où un scanner a été pratiqué. Il n'a pas révélé de blessures sérieuses, mais uniquement des ecchymoses. J'ai des petites douleurs un peu partout, mais je ne sais pas d'où vient la douleur, car j'ai l'impression que tout mon corps est meurtri. Mais bon, c'est pas si grave finalement. Je me souviens que je conduisais la voiture dans le premier tour, et puis soudain, un grand boom. Ce n'est pas un accident, aussi sérieux qu'il soit, qui va entamer la bonne humeur du Bolognais, non. Alex est un optimiste doublé d'un trompe-la-mort. Un garçon adopté par les Américains qui adore son style et ses dépassements parfois limites, comme celui réalisé en 96 à Laguna Seca, où dans le dernier tour, il tente un dépassement suicidaire qui lui permet de remporter le Grand Prix, manœuvre passée à la postérité sous le nom de The Pass. Alex Zanardi qui passe certain à l'intérieur dans un endroit où il est normalement impossible de dépasser. Une manœuvre brillante qui permet à Alex de recevoir le drapeau à l'ami et de remporter la course ici à Laguna Seca. C'est tout simplement incroyable. Pourtant, 5 ans plus tard, sur le Lotzinring, la baraka qui accompagnait Zanardi jusque-là va soudainement l'abandonner. Il reste 13 tours à parcourir dans cet American Memorial. Pour la première fois de la saison, Alex est en tête. Son avance est si confortable qu'il se permet de rentrer au stand pour changer de pneumatique. Au moment de remettre les gaz, il se précipite, part en tête à queue et se retrouve au ralenti de profil en pleine piste. Le Canadien Tagliani, lancé à plus de 320 km/h, a beau sauter sur les freins. Le choc est inévitable et effroyable. La course est aussitôt interrompue. Les équipes de secours se précipitent au chevet des deux pilotes qui gisent dans les carcasses de leur monoplace. Si Tagliani s'en sort miraculeusement avec seulement quelques bobos, pour Zanardi, l'affaire est plus sérieuse. Sa voiture est coupée en deux. Avec elle, les jambes du pilote. Le docteur Alves se montre très inquiet. Alex Zanardi est dans un état critique. Il a de très sérieuses blessures de jambes, a perdu énormément de sang. Mais il répond aux questions, il respire sans assistance. Nous l'avons dirigé vers le centre de traumatologie de Berlin. Alves expliquera plus tard que ce qui est arrivé à Zanardi ce jour-là est identique à ce que subissent les soldats qui marchent sur des mines. Transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Berlin, l'état d'Alex est gravissime, il ne lui reste que quelques gouttes de sang, son cœur est mis à mal.
Mon cœur, il a arrêté 7 fois, je suis arrivé à l'hôpital avec moins d'un litre de sang dans mon corps, j'ai vraiment changé les pronostics de la science. Qu'il ne me donnait pas une possibilité en ce moment-là. Mais ce n'est pas un miracle, c'est la passion pour la vie.
La passion pour la vie qui, après 8 jours de coma, lui permet de sortir de son profond sommeil. Réveil douloureux quand Daniela, son épouse, lui révèle sa situation.
Ma femme m'a dit ce qui s'était passé. Elle m'a dit « Tu as eu un grave accident. » Tu as dormi une semaine et j'ai autre chose à te dire. Dans l'accident, tu as perdu tes jambes, mais ce qui est important, c'est que tu sois en vie.
Oui, Alex est vivant et pour cet amoureux de l'existence, c'est bien là le plus important. Une nouvelle vie va pouvoir débuter. Le moment clé, ça a été quand je suis sorti du coma. Là, au lieu de me dire « Comment vais-je pouvoir vivre sans jambes ?», je me suis simplement dit « Comment diable vais-je pouvoir faire tout ce que j'ai à faire sans jambes ?» Ce qui signifie que j'étais plus curieux que déprimé. Et ça m'a ouvert les portes d'une nouvelle vie. Le bonheur était là, disponible. J'ai été simplement heureux d'être en vie. Débute alors une longue rééducation avec les deux prothèses en titane spécialement conçues pour lui. Il réapprend à se tenir debout, puis à marcher. Et 2 ans plus tard, le voici même de retour sur le circuit du Lotzinring où, à bord d'une voiture équipée de commandes à la main, il va pouvoir symboliquement achever la course qui s'était brutalement interrompue en 2001. La semaine dernière, Alex Zanardi a testé sa nouvelle voiture aux commandes adaptées au handicap du héros italien. Et maintenant, le voilà de retour en Allemagne pour conclure les 13 tours qu'il n'avait pas pu boucler en 2001. Il contrôle l'accélérateur avec sa main gauche, l'embrayage avec la droite et plus remarquable encore, contrôle le frein avec sa jambe artificielle droite.
Alex Zanardi a une énorme force en lui. Ce à quoi vous assistez en ce moment, les milliers de fans de Zanardi tout autour de la planète l'attendaient depuis bientôt 2 ans. Si Alex n'a plus de jambes, en revanche, il n'a rien perdu de sa science du pilotage. L'expérience est si probante qu'il décide alors de reprendre la compétition début 2004. Durant les 6 années qui vont suivre, le champion italien va écumer les circuits du championnat du monde des voitures de tourisme à bord de sa BMW, avec laquelle il décroche 5 victoires et bon nombre de places d'honneur. Mais Zanardi a d'autres envies. Lui, le fondu de sport, ancien pratiquant de ski, de tennis, de course à pied, va se découvrir une passion pour le vélo.
Avant l'accident, je ne faisais pas beaucoup de vélo. J'aimais courir, j'aimais faire du ski, j'aimais faire du tennis, mais pas la vélo. Mais après l'accident, j'ai découvert les vélos en main.
Le vélo à main, ou handbike en anglais, curieux engin juché sur 3 roues qui avance à la force des bras. Et Alex, le magnifique, va vite progresser. Avec seulement quelques semaines de préparation dans les bras, il se classe 4e du marathon de New York en 2007, avant de remporter celui de Venise, puis de revenir triompher à New York en 2011. Zanardi est si fort que la Fédération italienne handisport vient le chercher et lui propose de participer aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Alessandro a maintenant 45 ans, il ne va pas laisser passer l'occasion.
L'occasion, c'est maintenant. Je vais à Londres confiant que je peux être compétitif. C'est pas vraiment important de gagner une médaille. Ok, ce serait fantastique, mais de toute façon, c'est la chose plus importante, c'est de faire une chose et pendant le parcours, savoir ou croire que c'est possible d'arriver au bout avec un résultat important.
Sur le circuit de Brands Hatch, temple de la F1 britannique, Alex va tout rafler. 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent qui achèvent de le ranger parmi les légendes du sport italien. Un sportif pas comme les autres, dont raffolent les émissions télé. Un champion qui va mettre sa notoriété au service d'autres handicapés dont il devient le modèle, comme l'explique son ami le journaliste italien Ivan Zazzaro.
Il a donné du courage à tant de gens, surtout aux plus jeunes. Il leur a conseillé de sortir, de ne pas avoir honte de leur infirmité, si l'on peut dire. Il a fait du handicap une valeur, et c'est ça le plus important.
Si Zanardi, le bon vivant, au regard pétillant, jamais avare d'un sourire ou d'une bonne blague, adore la vie, les pâtes italiennes et sa famille, il est aussi un monstre de travail, ça tombe bien, s'entraîner, il adore ça.
I love what I do, you know. So,
j'aime ce que je fais. Je ne m'entraîne pas pour connaître le succès, mais parce que j'aime m'entraîner. J'adore faire de l'exercice. J'adore piloter mon vélo, j'adore être ici. Et si dans le futur je continue à gagner sur la route, ce sera la conséquence logique de mon approche, de tout ce que je fais. Une méthode qui va continuer à fonctionner 4 ans plus tard à Rio, où il décroche 2 nouveaux titres paralympiques. Le miracle se poursuit, Alex va se tourner vers le ciel.
Normalement, je ne remercie pas Dieu. Je me dis qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de moi. Mais lorsque je me suis aperçu que j'avais gagné, je me suis dit qu'il était temps de regarder le ciel.
Mais malgré ses prières, le ciel ne va pas se montrer beau joueur. Le 19 juin 2020, alors qu'il participe à une course caritative à bord de son handbike, Zanardi perd le contrôle de l'engin dans une descente et vient heurter de plein fouet un camion qui arrive en face. L'état d'Alex Zanardi est grave. L'athlète a été heurté par un camion alors qu'il était à bord de son vélo à main près de Pienza, dans la province de Sienne. L'ancien coureur a été immédiatement transporté par hélicoptère à l'hôpital. Et quelques heures plus tard, le docteur Bova, patron des urgences, vient devant les micros avec de mauvaises nouvelles. Zanardi a été évalué aux urgences par l'équipe de traumatologie. Il a subi des évaluations rapides qui ont révélé un état extrêmement grave. Il se trouve actuellement dans le bloc opératoire de neurochirurgie.
Actuellement, il est en salle opératoire de la neurochirurgie.
Cette fois-ci, ce ne sont pas les jambes, il n'en a plus, qui ont pris, mais le crâne du champion italien, multifracturé, avec enfoncement facial, de nouveau plongé dans le coma. Alex va y rester de longues semaines et subir de multiples interventions. Il ne quittera l'hôpital qu'un an et demi après cet énième accident en décembre de l'année dernière, pour enfin rentrer chez lui et poursuivre une longue rééducation. Si Alessandro le Grand a de nouveau échappé de près à la grande faucheuse, ce nouveau coup du sort va mettre définitivement un terme à la carrière sportive d'un athlète hors norme, un homme chéri de toute l'Italie. Le pape François lui-même sortira sa plus belle plume pour écrire une lettre d'encouragement à ce garçon au courage hors du commun, mais à la destinée impitoyable.
Merci Christophe Cessieux de nous avoir conté une nouvelle fois une histoire de sport, une histoire dramatique, un triste, évidemment, ouais, vraiment, un peu triste, mais une histoire aussi magnifique et magnifiquement racontée en tout cas. Merci beaucoup Christophe. Vous pouvez retrouver tous les C'était mieux avant de Christophe Cessieux en podcast. Allez-y, précipitez-vous car vous avez évidemment à chaque fois quelques belles pépites. Rapidement, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'est avec le cœur, Sarah.
Et on a des nouvelles de Zanardi aujourd'hui?
Il est toujours en rééducation, il est rentré chez lui, mais c'est très long. Il est, voilà, là, cette fois-ci, c'est pas les jambes. Là, les jambes, tu apprends à vivre sans jambes. Mais là, c'est la tête qui a pris. D'accord. Et donc, il fait des progrès, mais on n'a jamais vu Alessandro depuis. Il n'a jamais été montré.
Jamais d'apparition publique.
Non, c'est des destins. Des destins terribles et parfaitement racontés. C'est vrai que je savais qu'il avait été champion olympique, mais je n'avais pas eu la connaissance de cet autre accident après ses titres aux deux derniers JO.
Christophe Furios qui vit pour la première fois en direct dans le studio la performance de haut niveau de Christophe.
Effectivement impressionnant.
Mais c'est vrai.
Impressionnant et beaucoup d'émotions, au-delà de l'histoire évidemment, qui est dramatique. Mais je suis un amoureux, moi, du temps vieux. J'essaie de l'adapter au temps nouveau. Mais j'aime ça parce que c'est de l'endroit d'où on vient, quoi. Alors, évidemment que c'est un parcours incroyable, mais j'aime me rappeler des vieilles histoires, et je me reconnais dans ce qui était dit, hein, notamment, gagner une médaille, c'est pas le but. C'est pas le but. Moi, je le dis souvent à mes joueurs, gagner le titre de champion de France, gagner le bouclier, c'est pas le but. C'est le chemin qui est important. Et quand t'as qu'un œil sur le chemin, parce que tu as l'autre sur le but, tu peux sortir du chemin. Garde les deux yeux sur le chemin.
Simon Dutin.
Moi, j'ai que des banalités ou des poncifs à dire, au-delà du fait qu'effectivement, franchement, chaque fois, Christophe, il nous cloue avec ses histoires. Et on ne va pas trahir de secret. Cette rubrique, elle est née il y a quoi ? Il y a un an ?
Il y a un an,
ouais. Un an et demi. Ouais. Et c'est la première fois, en fait, qu'elle a été... J'ai dû m'y coller, moi, parce que je remplaçais Christophe. Bon, j'ai fait un truc, j'ai fait un truc sur Schumacher. Bon, voilà. J'avais pas bien compris, visiblement, le principe de la rubrique. Et à chaque fois, effectivement, je pars, j'écoute, je me dis, allez, on va voir, on va lui donner sa chance. Et à chaque fois, j'ai les poils, il arrive à me prendre. Sur l'histoire de Zanardi en question, c'est comme je disais, des poncifs, des banalités, c'est une leçon de vie, c'est les mecs qui, tu sais pas, après, tu te retrouves dans sa situation après son premier accident, tu peux avoir envie de plus parler à personne, de plus sortir de chez toi, de plus rien faire, quoi. Et lui, ce mec, il décide, tout d'un coup, il te dit, mais en fait, la vie, c'est génial, et voyons, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me reste comme capacité, qu'est-ce que je peux accomplir, et il y va, effectivement, bon, et voilà, cet accident, ce deuxième accident, il est absolument terrible, mais voilà, le mec est une légende, alors que il s'y destinait peut-être pas à la base, quoi, s'il lui était rien arrivé.
Un destin hors du commun raconté par Christophe Cessieux. La semaine prochaine,
une histoire triste, une histoire de la France, mais alors ça, on n'a pas connu parce qu'on n'était pas nés. Je vais vous raconter l'histoire de Marcel Cerdan.
On n'était pas nés. Christophe.
1948, Christophe. 1949, il est mort. Non, j'étais pas né.
Christophe
non plus.
T'as déjà ta carte de presse. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie. À vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule, vous venez lui dire. À tout de suite. 32 secondes.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h51, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport à partir de midi, les paris RMC. On va vous donner toutes les meilleures cotes de ce dimanche et notamment la rencontre ce soir, 8e journée de Ligue 1 entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça, c'est à partir de midi, mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs, le 32-7.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Kevin nous appelle au 32-16. Bonjour Kevin.
Bonjour, bonjour les grandes gueules.
Alors Kevin, tu veux t'attaquer à qui ce matin ?
Bah, c'était un peu Sarah, c'est sur le sujet du basket. Après, bon, tout le monde était plus ou moins d'accord quand même sur le fait que c'était pas forcément un très bon moteur d'utiliser la rivalité France-Espagne. Moi, je pense que c'en est même un excellent mauvais. Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote très rapide. On va revenir en 2005 à Nîmes, championnat de France Benjamin des comités au basket. C'est le Val-de-Marne contre le Rhône. Val-de-Marne a un joueur fabuleux qui met 35 points en finale et qui, à 2 minutes de la fin, alors que son équipe est sur le point de gagner, fait sa 4e faute, pète un câble sur l'arbitre, prend sa 5e et sort. Et ce joueur, il s'appelle Evan Fournier. Et j'ai jamais vu un gamin de cet âge-là jouer à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, il y a un caractère aussi un peu fragile des fois, et une tendance à sortir de son match à cause de décisions arbitrales. Et je pense que quand on a un leader comme ça, aller sur le terrain de la rivalité, on a à mon avis tout à perdre. Je pense que au contraire, il faut qu'on surtout pas qu'on aille sur ce terrain-là. Il faut qu'on soit sûr de notre force et que notamment Evan soit concentré sur ce qu'il a à faire, qu'il laisse le match venir à lui parce que c'est un joueur fabuleux et je pense que voilà, il faut qu'on soit au contraire. L'Espagne va jouer la carte du feu en essayant de d'enflammer le match et de pourrir le match. Nous, il faut qu'on soit la glace. Il faut qu'on soit vraiment très fort sur ce point-là.
Ok, la réponse de Sarah.
Bah, je suis très contente, tu apportes de l'eau à mon moulin parce que j'ai pas pu finir effectivement le sujet. Non, pas d'accord. Je conçois effectivement qu'une rivalité pour une individualité, ce n'est pas un bon moteur. Moi, ce que je voulais apporter comme élément, c'est que une rivalité au sein d'un groupe, ça peut être un discours qui rassemble et qui soude un groupe. Parce que quand on est dans un groupe, on a besoin d'aller dans la même direction. Et donc, si on trouve des éléments communs à un groupe et de dire que cette nation-là, par le passé, a battu 14 fois l'équipe de France et qu'on doit rétablir quelque chose, c'est une source de motivation pour un groupe et non pas pour une individualité. Et c'était le point que je voulais apporter. Tu ne m'as pas laissé parler. Je sais très bien, j'ai la chance de pouvoir m'expliquer.
Ah d'accord, donc voilà. Kevin vient t'attaquer. Toi, tu me redonnes le bébé que je vais redonner, évidemment. Je m'empresse car je suis très courageux à Kevin. Merci d'avoir composé le 32-16 et à bientôt sur RMC. Et bon match, évidemment, c'est ce soir 20h30 à suivre en direct en intégralité sur RMC. Ça va se croiser avec Lyon-PSG, mais ne vous inquiétez pas. Sur RMC,
mais Stéphane et Arnaud en direct sur RMC, ça va s'écouter.
Ça vaut le coup, la radio du sport. Vous allez vivre un après-midi et une soirée absolument incroyable. Philippe est avec nous au 32-16. Salut Philippe.
Oui, bonjour toute l'équipe. Alors déjà, un petit mot, je n'aurai pas l'occasion de lui parler. Moi, j'adore Christophe Furios. On a besoin de personnages comme ça dans le sport français. Voilà, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit et tout, mais au moins, il est vivant, il est clivant. Voilà, on a besoin de gens comme lui.
Ok, tu veux le crépir maintenant ou pas? Est-ce que tu veux le crépir dans la foulée ou non? C'est pas sûr.
Pas du tout, non. C'était sur Yann Ulrich, là, son documentaire. S'il gagne des ronds avec, tant mieux pour lui. Mais bon, au moins, c'est précieux. C'est comme la mafia. Pour combattre la mafia, il faut des repentis. Bah, dans le dopage, c'est pareil. Il va témoigner, il va dire qu'il a gagné une fois, qu'il a fait quatre fois deuxième.
Il a assassiné personne, hein, jusqu'à preuve du contraire, Yann Ulrich. Hein,
comment?
Il a tué personne. Il a laissé aucune veuve, aucune... orphelin, tout ça, quoi. J'entends la comparaison, mais je veux dire, n'allons pas trop loin tout de même.
Très bien, Philippe, continue.
Non, c'est juste ça. Pour combattre le dopage, il faut des repentis du dopage. Il faut que des gens qui ont gagné disent, voilà, bah, j'ai triché et tout. Ça éclaire aussi ce qu'on voit maintenant, parce qu'en 2022, ça m'a bien fait rigoler. Mais surtout, ce qui me gêne aussi, moi, c'est que ces gens-là, bon, quand ils avouent, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune compassion pour ceux qui étaient propres et qui ont fait 8, 9e derrière, qui, eux, auraient mérité la gloire.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Ah bah ça, je le sais. Parce qu'on le sait, on sait lire, hein, vous savez, on n'est pas tous des...
Ouais, mais vous savez pas lire, publics, vous savez pas lire à l'intérieur de ce sportif-là, de ce mec-là aujourd'hui, avec ce qu'il a vécu. Peut-être que s'il revenait en arrière, il ferait pas la même chose. Peut-être que le documentaire va nous le dire d'ailleurs.
Les années 97, 98.
Comment vous pouvez défendre quelqu'un qui avoue avoir triché pour gagner? C'est indéfendable, voilà.
C'est pas la question de défendre, là, vous êtes en train de... Non, vous êtes en train de dire qu'il avait pas de compassion pour les autres. On n'en sait rien. On sait pas dans quel... En fait, on ne sait pas dans quelle mesure il est arrivé dans cet univers-là. Et je pense qu'il n'était pas le seul, hein, le pourcentage de coureurs cyclistes qui étaient sur...
Les années EPO, là, il y avait...
Peut-être sur les doigts de la main, donc...
Bon, en tout cas, on remercie Philippe d'avoir pu exprimer son avis. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui, mais c'était important de poser le débat sur la table. Merci Philippe d'avoir composé le 32-16. Un grand merci à Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Christophe Furios. Christophe, ça s'est bien passé, cette première en studio?
Ouais, très bien.
Tu reviendras nous voir?
Je reviendrai vous voir. Ouais.
Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous et merci d'être dans la bande des GG. Je remercie également Maxime Abolin à la production, Alban Azaïs à la réalisation et la Fédé de cyclisme pour l'avion, évidemment. On vous embrasse et tout de suite les Paris RMC, les GG, ce sera samedi prochain à partir de 9h. Salut.